Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Patrick Menucci, ancien député PS de Marseille, porte-parole de la campagne présidentielle d'Anne Hidalgo. Bonsoir.
Bonsoir à Radio Orient.
Alors, Anne Hidalgo a présenté son programme présidentiel, elle a renforcé son équipe de campagne avant un meeting à Aubervilliers ce dimanche. Le premier tour a lieu dans moins de 3 mois. Patrick Menucci, avez-vous le sentiment aujourd'hui qu'une nouvelle dynamique est possible pour Anne Hidalgo ?
Oui, je le crois, parce que aujourd'hui, la campagne jusqu'à présent s'est déroulée sur des questions qui ne sont pas au fond les questions qui intéressent les Français. Enfin, je vois deux types de questionnements qu'a porté la campagne. D'abord, l'extrême droite qui nous impose de ne parler quasiment que de l'identité, alors que les Français sont beaucoup plus intéressés par leur pouvoir d'achat, par exemple, que par l'identité. Et la deuxième chose, c'est les questions liées, notamment à gauche, à l'unité ou pas l'unité. Et au fond, les questions centrales, qui sont la revalorisation du travail, l'éducation pour bâtir un avenir, les moyens de la reconquête économique et bien sûr la transition écologique, ce sont des sujets qui, au fond, ne sont pas au premier plan de la discussion. Donc, nous réglons cette question d'abord par la publication d'un programme qui est un programme présidentiel d'Anne Hidalgo, qui est issu du travail du Parti Socialiste et du travail de la candidate et de ses équipes, et puis par l'affirmation de la candidature d'Anne Hidalgo jusqu'au bout. Voilà. Et donc, à partir de là, vous savez, il n'y aura pas autant de candidats que de personnes se poussant du col pour l'être depuis quelques semaines. Vous verrez que quand le Conseil constitutionnel publiera ceux qui ont le droit d'être candidats, nous n'en serons pas du tout à la somme immense, et notamment à gauche, des candidats qui se pressent pour faire 5%. Donc voilà, c'est ça, je pense, qu'il va faire en sorte que la campagne change.
Alors, Anne Hidalgo a présenté 70 propositions pour réunir la France. Elle parle de 3 urgences majeures, sociales, climatiques et démocratiques. Elle met la question sociale au cœur de son projet. Patrick Menucci, de nombreux Français gagnent le SMIC ou à peine plus que le SMIC. Je pense aussi aux travailleurs ubérisés qui ont perdu de nombreux droits sociaux. De quelle manière la vie de ces personnes sera-t-elle améliorée si Anne Hidalgo est élue présidente ?
Ben, sur le SMIC, déjà, c'est la première mesure, hein. Quand on ouvre le programme, c'est la première mesure, c'est augmenter les salaires. Et pour le SMIC, on a dit 15%, en réalité, ça représente 200 euros. Donc, c'est 200 euros d'augmentation du SMIC. Écoutez, ça, c'est une décision de l'État. On aura évidemment des cris du MEDEF sur la compétitivité. On nous parlera des Allemands, des Espagnols. Mais enfin, voilà, je veux dire, il faut en finir avec ça. Les travailleurs qui sont maintenant, on les appelle souvent les travailleurs de première ligne, ont parfaitement la légitimité, le droit et la nécessité de gagner plus. Je dirais que c'est ça qui, d'ailleurs, fait la différence entre nous, une des différences importantes entre nous et le président de la République. C'est-à-dire que c'est l'affirmation de la social-démocratie. La social-démocratie, qu'est-ce que c'est ? C'est la reconnaissance d'un système économique. On n'est pas en train de demander le passage au communisme ou à l'appropriation par l'État des biens. On a, voilà, convenu qu'il y a des entreprises, qu'il y a un fonctionnement, mais c'est le partage. Et c'est donc évidemment la question des salaires, et vous avez raison également sur les travailleurs de plateforme, sur le droit des salariés. C'est la mesure numéro 7 d'ailleurs qui est proposée dans le programme d'Anne. Et donc là, c'est effectivement la reconnaissance de la pénibilité du travail des travailleurs de plateforme, hein, ce qu'on appelle les travailleurs de plateforme, livreurs, travailleurs indépendants, qui ont des conditions de travail et de rémunération aujourd'hui qui ne sont pas acceptables. Donc la loi propose à Hidalgo établira en leur faveur une présomption de salariat, c'est-à-dire qu'on considérera qu'ils doivent accéder à l'ensemble des droits des salariés, le SMIC, la protection sociale, la médecine du travail, en fait, tout ce que on a construit dans ce pays pour protéger les travailleurs, et la charge de la preuve du fait qu'ils ne sont pas des salariés sera à l'inverse et elle incombera aux dirigeants des plateformes. Donc vous voyez que là, nous aurons une modification considérable de la situation de ces personnes qui sont de plus en plus nombreuses dans le pays.
Patrick Mennucci, le logement, c'est l'un des sujets de préoccupation majeure pour les gens qui ont un petit salaire. Anne Hidalgo affirme qu'aucun Français ne dépensera plus d'un tiers de ses revenus pour se loger grâce à la mise en place d'un bouclier logement. Est-ce qu'elle construira plus de logements sociaux puisque la construction a beaucoup baissé ces dernières années?
Bah, si vous voulez, la construction a baissé aussi parce que il y a quand même une recherche de ne pas construire toujours dans les mêmes lieux. Si vous voulez, les HLM, si on voulait les construire toujours dans les mêmes communes, il n'y aurait pas de difficulté à le faire, mais on voit bien où cela conduit, à des ghettos, à des cités qui sont ingérables. Donc évidemment, c'est François Hollande qui a commencé, notamment avec la loi qui impose à toutes les communes de devoir construire des HLM. Force est de constater que cette loi est mal appliquée, elle a trop d'échappatoires, et donc de ce point de vue, Anne Hidalgo renforcera l'obligation pour les communes les communes riches, hein, puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler au fond, de la construction de HLM. Et d'ailleurs Paris, qu'elle dirige, est un exemple de ce point de vue. Vous avez maintenant des HLM dans les secteurs qui sont les secteurs les plus riches de la capitale. Donc oui, il faut bien sûr redémarrer cette activité. C'est très important que les Français puissent se loger, d'autant que on voit bien qu'il y a des changements d'habitude qui se fait à cause du Covid. Et sans doute, la question de la place, peut-être, dans les logements de bureaux, par exemple, de pièces supplémentaires, etc., est une question qui va se poser.
Alors, un autre axe du programme d'Anne Hidalgo, c'est la santé. La candidate socialiste veut mettre fin aux déserts médicaux. Est-ce qu'il faudra obliger les jeunes médecins à s'installer dans ces déserts médicaux et est-ce qu'il faudra rouvrir des lits d'hôpitaux, Patrick Mennucci?
Bah, il faudra, je pense, déjà cesser de les fermer. Ça me paraît être décisif. Il faut éloigner le spectre de la espèce de privatisation de la santé. Et pour cela, je pense que les socialistes seraient mieux placés parce qu'ils ont toujours été sur cette position. Il n'y a pas de question de contester qu'il y a un secteur privé dans la santé, mais il est question de peut-être en faire une plus grande cohérence avec le secteur privé. Donc consolider le rôle de l'hôpital public comme pilier de la santé des Français. Et quand on a une petite chose, on peut aller dans le privé. Malheureusement, les grosses interventions, elles se font à l'hôpital, et même ceux qui critiquent l'hôpital sont évidemment bien contents de le trouver. Donc je crois qu'il s'agit de tourner la page de l'hôpital entreprise et de la maîtrise comptable des dépenses de santé qui ont affaibli notre système de santé, et pourtant qui a été longtemps réputé comme les meilleurs dans le monde. Et je crois que le financement de l'hôpital public et de la santé publique sera transformé. C'est une proposition là, très précise. Donc on en terminera avec l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, et Anne Hidalgo dit qu'elle fondera les modalités d'évolution et de maîtrise de ces dépenses de santé sur des objectifs nationaux, non pas financiers, mais de santé publique. Hein? Donc, bien sûr, des indicateurs budgétaires, on n'est pas idiots, mais ce sont d'abord les objectifs de santé publique qui doivent diriger l'hôpital. Donc, les règles de tarification à l'acte aujourd'hui en vigueur, il faut les modifier. Par exemple, quand on cherche des économies, bien voilà, le plus grand rôle des médecins de ville. Et vous avez raison, l'idée d'en finir avec les déserts médicaux, à titre personnel, je suis tout à fait favorable à la surtaxation de ceux qui s'installent dans les bons endroits et la sous-taxation de ceux qui s'installent dans les endroits difficiles.
Patrick Mennucci, Emmanuel Macron a laissé entendre qu'il voulait remettre en cause la gratuité des études supérieures. Est-ce que l'université risque de devenir payante si Emmanuel Macron est réélu?
Si c'est Anne Hidalgo, non. Si c'est Emmanuel Macron, alors je suis toujours... j'essaie d'être honnête dans l'analyse de ce que peuvent dire les concurrents d'Anne Hidalgo. Effectivement, je suis extrêmement surpris de la position du président de la République. S'il s'agit de dire que l'université, pour atteindre un niveau supérieur à ce qu'il a aujourd'hui, doit devenir payante, ça veut dire donc qu'il faut de l'argent. S'il faut de l'argent, ça veut dire que peut-être on peut régler un certain nombre de questions avec le privé. Parce que prenez par exemple l'exemple des classes préparatoires qui sont surfinancées par l'État. Et une fois que les élèves sont sortis des classes préparatoires, ça bénéficie à qui? Ça bénéficie à de l'éducation privée. Donc il y a là peut-être effectivement pour les classes préparatoires à réfléchir à des... possibilité pour ces entreprises privées de les financer. Il y en a déjà d'ailleurs dont c'est le cas. Et donc, ce que je pense, c'est que ce n'est pas possible. Je suis d'ailleurs très surpris de la déclaration du président de la République qui essaye de jouer à la fois sur sa partie droite et sur sa partie gauche, mais c'est tous les Français qui sont concernés par l'université.
C'est une déclaration qui peut lui coûter cher?
Je crois que c'est une déclaration qui est difficile à entendre, honnêtement surprenante quand même, parce que je le dis franchement, je ne m'attendais pas à ce type de déclaration. Et je pense que la situation politique aujourd'hui pour le président de la République est compliquée. Effectivement, dans les sondages, il est bien placé au premier tour, mais un deuxième tour face à un candidat, évidemment, c'était avec Anne Hidalgo, je pense qu'il est battu, mais vous voyez, si jamais il se retrouvait avec la candidate de la droite, il y aurait une énorme difficulté, parce que on sent bien qu'il y a, comment dire, un certain nombre de ratés dans le moteur macroniste, sur moi.
Anne Hidalgo, présidente, fera de la lutte contre le réchauffement climatique sa priorité. Est-ce que ça aura pour conséquence des sacrifices pour les Français? Est-ce que cela aura un coût financier supportable pour les Français les plus modestes?
Écoutez, c'est l'objectif. On ne peut pas dire que l'écologie est le combat du siècle penser que ça ne coûtera rien. La question surtout, c'est d'avoir une fiscalité écologique la plus juste possible. Nous avons une proposition, c'est à celle-là que vous faites allusion, qui est l'impôt de solidarité sur la fortune climat et sur la biodiversité afin de mettre à contribution les fortunés pour financer la transition énergétique. Donc les placements liés aux énergies fossiles, par exemple, seront surtaxés. Si demain vous achetez des actions de Total, eh bien vous aurez une taxation boursière qui sera supérieure à si vous achetez des actions d'une entreprise qui fabrique des panneaux solaires. Voilà une façon très simple pour faire comprendre que il n'y aura pas le même impôt à la fois pour l'entreprise, à la fois pour ceux qui peuvent faire des achats d'actions avec eux. Je pense que ça, c'est effectivement une mesure qui est tout à fait décisive.
Patrick Mennucci, Anne Hidalgo veut réunir la France. Le pays est très divisé. Il y a un niveau de violence politique qu'on n'avait pas connu depuis des années. Comment sortir des clivages et de la haine à l'heure des réseaux sociaux et des chaînes info?
Je comprends. Vous savez, Anne Hidalgo, c'est une mère, hein, d'un certain point de vue. Je parle pas mère de Paris, mais une femme mère. Et elle est, je crois, extrêmement dans la bienveillance. C'est quelqu'un qui ne joue pas sur ces questions-là, dans le respect. Donc je crois déjà qu'il faut que le président de la République... la question que vous posez, ça règle pas en deux minutes. Hein. C'est pas parce qu'Anne Hidalgo sera président de la République qu'immédiatement le pays sera apaisé. Mais Déjà, si le président de la République donne une image de son action, évite de blesser, mène sa politique, essaye de la faire comprendre, quand il faut l'imposer, l'impose, mais en même temps, garde un quant à soi, et je pense que l'un des problèmes d'Emmanuel Macron, c'est sa politique dans quelques domaines, dans beaucoup, mais c'est aussi la façon de s'exprimer vis-à-vis des jeunes qui sont pas d'accord avec lui. Donc voilà, moi je réponds pas oui, vous allez voir, ça va être formidable, Anne Hidalgo va régler tous les problèmes de tension dans le pays, mais déjà on peut essayer de conduire une politique qui soit quand même moins agressive, et personnellement de se comporter d'une autre façon. Et je pense que le président de la République a quand même, dans certains aspects de sa personnalité, contribuer à l'énervement général.
Le maire socialiste du Mans, Stéphane Le Foll, a appelé le PS à ne pas se laisser dominer par les wokistes, les décroissants et les anti-progrès. Ce sont des sujets qui divisent à gauche. Est-ce que sur ces thèmes, Anne Hidalgo est claire? Est-ce qu'elle est plus proche, par exemple, de Fabien Roussel que de Sandrine Rousseau?
Ah, je crois que... Je sais pas... Pour moi, ni Fabien Roussel, ni Sandrine Rousseau sont des phares de la pensée, si vous voulez. Hein. Mais je dirais qu'Anne Hidalgo, elle est proche de la pensée traditionnelle du Parti Socialiste. Elle est républicaine. C'est une gauche républicaine, hein, social-démocrate, qui est pour la laïcité dans toute l'acceptation de ce que c'est, hein, un peu comme l'explique Patrick Blay, par exemple, et elle est, je crois, là-dessus, extrêmement claire dans son attachement à la République. Alors, elle est très éloignée du wokisme, évidemment. Pour nous, c'est une... Je veux dire, la lutte contre les inégalités est décisive, hein, et faut pas que l'intersectionnalité remplace de certaine façon la lutte des classes. Donc même si la lutte des classes n'est plus celle que nous avons connue au XXe siècle, mais voilà, si à votre question de savoir si Anne Hidalgo de qui Anne Hidalgo est proche, je répondrai de Jean Jaurès. Excusez-moi, mais c'est un autre niveau que les deux personnalités que vous citiez précédemment.
Merci Patrick Menucci. Je rappelle que vous êtes ancien député PS de Marseille et porte-parole d'Anne Hidalgo. Bonsoir.
Merci, bonsoir à tous, au revoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.